Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1, écrire sur le web. On poursuit notre session de présentation des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui a commencé à 14h30 cet après-midi par l'exposé de trois étudiants et étudiantes sur le thème de la mémoire du web. Alors pour rappel, les étudiants de ce cours-là, de WE1, réalisent chaque semestre un projet en groupe qui consiste à mettre en ligne un dossier thématique qui sera composé d'articles et de fiches de lecture, tout cela autour d'une problématique technologique du web. Alors on va continuer à présent avec la dernière présentation du semestre. Je suis avec Paul, Arnaud et Benoît en studio. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Vous avez choisi de nous parler dans votre dossier de low-tech et puis d'articuler ce sujet avec la notion de progrès. On va vous écouter nous présenter un exposé à trois voix sur ce sujet. Et pendant ce temps, donc, les autres étudiants du cours vous écoutent, ils écoutent la radio. Et puis ils sont prêts à vous poser quelques questions sur Mattermost que je vous relayerai au micro de ce studio. Alors on démarre tout de suite. Paul, si tu es prêt, tu vas commencer par nous parler de quelques enjeux d'accessibilité et de compréhension technologique derrière la démarche low-tech. Si tu es prêt, Paul, je te laisse y aller là-dessus. Allez, c'est parti.
Bonjour et bienvenue pour cette intervention radio au sujet de la conciliation entre low-tech et progrès. Je vais pour ma part vous parler du côté simple et accessible de low-tech, puis Arnaud proposera une réflexion autour de celle-ci. Enfin, Benoît s'exprimera sur les avantages écologiques. Pour cette intervention, nous allons nous baser sur les travaux du Low-Tech Lab, un organisme de recherche sur la low-tech. Pour commencer cette intervention, je vais déjà vous définir les termes les plus importants. La low-tech est une démarche qui prône l'essentialité, la simplicité et la durabilité de la technologie. Cette démarche n'est pas en opposition avec la high-tech que l'on connaît tous, mais plutôt une autre voie, une autre vision du développement de nos technologies. Son nom est trompeur. On ne veut pas rendre un système moins bon, mais plutôt plus essentiel et simple. Une grande référence de ce sujet est le Low-Tech Lab, un organisme qui travaille et recherche autour de la low-tech, tout en partageant leurs découvertes. De la simple réutilisation du particule jusqu'à l'éolienne pour particulier, cet organisme propose beaucoup de systèmes low-tech. La low-tech peut engendrer ce qu'on appelle la low-technisation. C'est le fait de rendre et ou concevoir un système low-tech en y appliquant nos principes et nos idées. C'est-à-dire d'implémenter des solutions techniques qui ajoutent ou diminuent les fonctionnalités en cohésion avec la low-tech. Par exemple, modifier une partie pour consommer moins d'énergie. Enfin, vous allez entendre parler d'interopérabilité. L'interopérabilité, selon le dictionnaire Larousse, est la capacité de matériel, de logiciel ou de protocoles différents à fonctionner ensemble et à partager des informations. On peut aussi parler d'interopérabilité pour des systèmes mécaniques. Un système low-tech n'est pas forcément un système archaïque, complètement déconnecté de nos besoins en nourriture ou en énergie, au contraire. On trouve de plus en plus d'alternatives low-tech pour de la production d'électricité ou encore pour conserver nos aliments. Une des principales forces d'un système low-tech est sa simplicité. Le système conçu, qu'importe son usage, doit être compréhensible et reproductible par le plus grand nombre, qu'importe les moyens ou la géolocalisation. Cette dimension de la low-tech implique de concevoir et réfléchir des systèmes d'une toute autre façon. Il faut pouvoir prédire la faisabilité de nos solutions et bien penser aux ressources nécessaires. Cela permet d'avoir une autre vision de la conception, de redéfinir l'exercice du métier d'inventeur ou d'ingénieur. De cette manière, la conception du système plus simple mais avec un usage similaire permet aussi de faire avancer l'industrie tout entière. Si on trouve un moyen plus simple et moins coûteux pour produire l'énergie par exemple, pourquoi ne pas l'utiliser partout? Bien sûr, il y a la question des rendements, mais pour des productions plus locales, on pourrait utiliser ces systèmes comme des mini-centrales électriques d'appoint pour une maison ou un quartier. Cet exemple de système low-tech ferait évoluer et progresser la manière dont nous produisons de l'énergie. Benoît vous parlera des dimensions écologiques d'un tel système. Mais on peut facilement dire que la production de systèmes low-tech ne coûte pas grand-chose et pourrait donc être très facile à déployer. Si vous souhaitez creuser la question sur les logiciels et licences libres, vous pouvez vous appuyer sur le site des Creative Commons que l'on a déjà évoqué, ou alors le projet GNU qui dispose de son propre site internet. L'extrait audio qui va suivre provient d'une vidéo du Low-Tech Lab, montrant comment réaliser un système de chauffage solaire low-tech. Ces chaînes et leur site web proposent aussi un tutoriel pour construire soi-même une éolienne low-tech, mais la vidéo étant en espagnol sous-titrée, nous ne la diffuserons pas ici.
C'est un panneau, un capteur qu'on va venir installer à l'extérieur d'une maison, à la verticale. Et donc il va être composé d'un châssis en bois extérieur, d'une vitre, derrière d'un absorbeur, et là on va utiliser des ardoises. Donc en fait le rayonnement du soleil va être capté par l'absorbeur, ça va permettre de faire monter en température les ardoises grâce à un effet de serre. Et derrière ces ardoises on va avoir une lame d'air dynamique qui va venir circuler derrière les ardoises, se réchauffer progressivement et être réinjectée dans l'habitat.
En à peine un an, Loïc et les personnes gravitant autour d'Enerlog ont aussi investi de leur temps en recherche et développement sur le capteur à air chaud. Via des modélisations et simulations numériques, ils tentent de mieux maîtriser les caractéristiques de ce système. La diffusion de ces capteurs se fait ensuite essentiellement par des formations. Et grâce à celles menées durant l'année passée, ce sont une vingtaine de personnes qui ont pu être formées à sa fabrication et 6 d'entre elles qui ont pu s'en équiper directement.
Avec cet extrait audio, on peut voir que la technologie low-tech n'est pas une sous-technologie. On a besoin de faire de la recherche, du développement et des formations. Un autre point où la low-tech permet de progresser est l'interopérabilité. Un système low-tech est essentiel, comme je l'ai dit plus tôt. De par sa conception, il sera donc beaucoup plus facile à intégrer dans un système plus grand et plus complexe, permettant ainsi au système low-tech de fonctionner avec beaucoup d'autres systèmes low-tech ou non. L'accessibilité de la low-tech joue aussi un grand rôle dans ce procédé. On peut décomposer cette notion en deux parties. La facilité de compréhension de la low-tech et le fait que la low-tech soit partagée sans aucun problème par ses créateurs et ceux qui la fabriquent. Pour ce qui est de la facilité de compréhension de cette démarche, on l'a déjà un peu abordé. Plus un système est simple et plus le nombre de personnes qui le comprennent est grand, plus le nombre d'idées d'intégration de système dans un autre seront grandes, voilà tout. Plus il y a de personnes qui utilisent ce système, plus les idées de développement, d'utilisation et d'intégration seront importantes. La diversité des expériences et la facilité de compréhension de ces systèmes permettent d'imaginer le plus de solutions possibles. L'autre point grâce auquel la low-tech développe l'interopérabilité, c'est grâce à ses méthodes de diffusion. Dès lors de la création d'une œuvre, ce que l'on appelle les droits d'auteur s'appliquent automatiquement. Ils garantissent que l'auteur puisse jouir de sa création en la protégeant et en s'assurant que l'auteur puisse l'utiliser à son bon vouloir. La plupart des tutoriels et inventions du low-tech lab sont sous les Creative Commons ou licences libres. Les Creative Commons sont pour vous donner une image de type de licence fait pour le partage. Elles sont à la carte. Les Creative Commons font partie des licences libres, des licences qui gèrent, protègent les œuvres et ses auteurs, mais qui sont plus permissives et permettent une plus grande diffusion et réutilisation, à l'inverse des copyrights. Par exemple, si vous avez pu entendre cet extrait audio qui ne vous appartient pas, c'est parce que l'auteur de l'émission, le Low-Tech Lab en l'occurrence, a placé cette vidéo sous la licence CC BY, qui demande juste de citer l'auteur pour pouvoir la réutiliser. On peut la partager ou encore la modifier. Si j'ai dit que les Creative Commons étaient des licences à la carte, c'est parce que l'on peut choisir quel type de protection qu'on souhaite en y ajoutant et en enlevant des sigles dans la désignation de notre licence. Par exemple, le sigle ND signifie pas d'utilisation commerciale de cette œuvre. C'est donc grâce à ce principe de diffusion que la démarche low-tech peut être documentée, développée et partagée par le plus grand nombre. Il y a assez peu de propriétés intellectuelles bloquées par des brevets ou des copyrights, à l'instar de la high-tech. Il est plus possible de concevoir notre propre système compatible avec un autre si on dispose de la documentation complète de cet autre système, plutôt que de devoir le rétro-générer, concevoir des plans et comprendre son fonctionnement à partir de systèmes finis. En conclusion, la low-tech participe au progrès en rendant la technologie plus accessible et plus simple, permettant une plus large diffusion et une meilleure compréhension des technologies qui nous entourent.
Merci beaucoup Paul. Alors effectivement, tu nous as bien permis de comprendre tout le principe des low-tech et puis d'étendre cela voilà, au principe de diffusion des connaissances, à l'accessibilité, l'interopérabilité, qui sont voilà, des concepts très, très importants autour de ce sujet-là. Donc merci pour ça. Écoute, il y a Aria qui te posait une question assez, assez radicale, mais après tout, pourquoi pas. Effectivement, qu'est-ce qui nous empêcherait de fonctionner uniquement avec des systèmes low-tech, puisque de ce que tu nous as expliqué, c'est ça donne envie, on a envie effectivement de comprendre les outils qui nous entourent, de fonctionner dans une société où ces connaissances techniques-là sont accessibles, où on peut comprendre comment tout cela fonctionne. Qu'est-ce qui nous empêche finalement de fonctionner uniquement avec des systèmes low-tech ?
Je pense que la plus grande raison qui nous empêche de fonctionner avec des systèmes low-tech, c'est nous. On va aller s'orienter vers des systèmes qu'on connaît déjà, des trucs qui sont plus high-tech. Par exemple, un téléphone, tout le monde en a. Peut-être Monsieur Croza qui a son petit téléphone, mais ça c'est autre chose. Mais on va prendre des téléphones parce que c'est pratique, ça réalise plein d'utilisations à la fois. Ça nous permet d'appeler, messages, toutes les applications, les réseaux sociaux, etc. Alors qu'un téléphone pour appeler et un téléphone pour recevoir des messages, ça peut largement suffire. Donc c'est plus nous, c'est à nous de dire on va prendre de la low-tech pour utiliser la low-tech plutôt que d'attendre qu'on ait des solutions viables en low-tech. C'est-à-dire qu'il y a déjà des solutions viables, mais il faut qu'on les adopte. C'est pour ça qu'on n'utilise pas de low-tech.
Oui, d'accord. Et donc, il y a vraiment une réflexion sur les besoins. Effectivement, tu citais l'exemple de Stéphane avec son téléphone qui n'est pas un smartphone. Il y a même, écoute, des chercheurs qui n'ont même pas de téléphone à l'UTC. Mais parce qu'il y a une vraie réflexion sur nos besoins, effectivement, nos habitudes, etc. Et à ce moment-là, alors tu parlais dans ton intervention, tu exprimais aussi le besoin de redéfinir l'exercice du métier d'inventeur et d'ingénieur. Et dans ce contexte-là, oui, un ingénieur en low-tech ou en low-technicisation, alors qu'est-ce qu'il ferait de différent ? Quel serait son rôle à ce moment-là dans une société comme ça ?
En ce moment, dans toutes les entreprises, il y a le secret du brevet, quelque chose comme ça. Quand on définit un système, on va le protéger. Certes, on va devoir le diffuser, mais il est complexe. Il n'y a pas tout le monde qui peut le comprendre. Et quand on réalise un système low-tech, il faut qu'on pense à des gens qui, par exemple, n'ont pas de formation ou des gens qui sont dans des situations un peu compliquées. Par exemple, Dans l'exemple de la vidéo de l'éolienne, c'était des agriculteurs dans un pays comme la Colombie, donc des milieux très isolés. Il faut que ces gens-là, qui n'ont peut-être pas le même niveau d'équitation, puissent comprendre comment fonctionne le système et comment le réaliser, comment l'entretenir. On parlait aussi, je crois que c'était en cours, l'exemple des agriculteurs qui sont soumis par les industries via l'informatisation. Là, c'est pareil. Et avant, quand ils avaient des tracteurs assez simples avec un moteur plutôt simple, ils pouvaient le réparer eux-mêmes ou leur demander au réparateur du village. Maintenant qu'on a les tracteurs avec tous les systèmes informatiques, bah, pour par exemple juste gérer le logiciel, il faut forcément qu'il passe par l'entreprise. Donc là, c'est là le boulot où il diffère, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir des ingénieurs qui pensent à rendre le système plus simple pour qu'il soit réparable, plutôt que de le rendre plus complexe pour éviter que les gens ne le comprennent.
Merci Paul, c'est une réponse très claire, écoute, et puis qui va bien faire la transition en plus, je crois, avec la partie d'Arnaud. Arnaud, tu vas nous parler de convivialité. Si tu es prêt Arnaud, c'est à toi.
Ouais. Quand on parle de progrès, on a tendance à réduire ce dernier au progrès technologique, à l'innovation, à la constante poursuite des meilleures performances, des meilleurs rendements. Alors que le progrès est un concept bien plus global. En effet, en philosophie, le progrès est défini comme la marche du genre humain vers la perfection, vers son bonheur. On peut ainsi comprendre pourquoi, quand on entend évolution technique, on entend progrès. Le progrès technique nous permet d'être moins contraints par nos besoins primaires et d'être mieux divertis, ce qui, en théorie, devrait nous rendre plus heureux. Mais vous serez d'accord avec moi, penser que l'idée qu'un progrès technique absolu nous rendrait tous heureux est bien réductrice. On peut le constater avec les différentes limites de notre société actuelle, le réchauffement climatique, les inégalités sociales, qui sont en partie causées par ce progrès technique. Pour que le genre humain marche vers son bonheur, il faudrait quelque chose d'autre. Il y a une idée très intéressante dans la low-tech, c'est l'idée de convivialité. En effet, d'après Hugues Chopelin, on peut définir la low-technologisation comme un processus consistant à rediriger l'innovation et les inventions pour négocier le spectre fonctionnel et la complexité technique des objets afin de créer des outils plus soutenables et plus conviviaux. Donc en soi, la low-tech consiste à trouver un équilibre entre efficacité et complexité technique, et donc entre productivité et convivialité. On parle de convivialité, mais qu'est-ce que la convivialité exactement ? La convivialité est un concept qui a été défini par Ivan Illich comme l'inverse de la productivité industrielle, quelque chose qui met en avant la relation entre individus plus que la productivité. Elle met en avant des valeurs éthiques à la place de valeurs techniques. On a donc ici un concept qui s'oppose à l'idée de progrès purement technologique. Dans la convivialité, il y a une idée d'autonomie, d'action créative moins contrainte par autrui. J'ai trouvé d'ailleurs un extrait audio très intéressant à propos d'un projet nommé Cargonomia, qui est un projet low-tech basé en Hongrie. C'est en fait une chaîne de distribution de produits agricoles entièrement low-tech, dans sa production jusqu'à son transport, qui est effectué à vélo.
En prenant suffisamment de recul, on observe que les différents projets initiés ou nourris par Cargonomia ne relèvent pas seulement d'une logistique ou d'une agriculture plus low-tech. En effet, ces différentes activités permettent déjà à un certain nombre de personnes de vivre concrètement au sein de réseaux de proximité, qui sont le plus souvent informels, voire affectifs, et qui favorisent l'autogestion, le soin et la solidarité. Ceux-ci sont aussi a priori capables de produire et d'acheminer des biens et services essentiels, mais d'une façon bien distincte de celle qu'impliquent nos sociétés globalisées.
A lot of the members of Cargonomia are very influenced by the narratives in degrowth and the scholarship and also the practical aspects of the degrowth movement. There is a shared acknowledgement for the importance of accessible technology and also the potential dangers in complex technology and also the systems that make very complex technology possible. So if we're talking about globalized production and consumption chains.
On constate bien l'aspect convivial de Cargonomia. Cette initiative a permis de développer la solidarité, l'échange au sein de leur communauté, ainsi qu'une volonté de s'éloigner de l'approche industrielle. Ce projet utilise donc des outils low-tech. Ils expliquent ce choix par leur compréhension des dangers des outils complexes. Le mode de fonctionnement de Cargonomia s'oppose donc totalement à un fonctionnement industriel, qui tend à créer un système où le consommateur n'a aucun contact avec le producteur, et qui tend aussi à aliéner l'ouvrier. Pour donner un exemple, dans un travail à la chaîne, l'ouvrier n'utilise plus la machine, il devient son opérateur. Il devient en quelque sorte esclave de son fonctionnement. C'est notamment la thèse posée par Illich pour démontrer les dangers des outils industriels. Comme énoncé précédemment, les outils low-tech tendent à être plus conviviaux. Illich définit les outils conviviaux comme des outils que l'individu peut utiliser aussi souvent qu'il veut pour les fins qu'il désire. Ils nous permettent ainsi d'avoir une action plus libre sur le monde. Il classe également les outils dans deux catégories. D'un côté, les outils maniables, ceux qui utilisent uniquement l'énergie métabolique, celle du corps humain, et de l'autre, les outils manipulables, qui utilisent des énergies extérieures. En général, les outils maniables sont conviviaux. On peut le voir dans notre exemple. L'utilisation de vélos, donc d'outils maniables, libère le projet de certaines contraintes, comme le prix de l'essence ou l'entretien de véhicules. Au final, ça leur permet d'être moins dépendants d'organismes extérieurs. L'utilisation d'outils plus simples, plus low-tech, leur permet donc d'être plus libres dans la façon dont ils exercent leur opération. Leur approche est possible car leur système de distribution est local et donc non globalisé. Avoir une opération couvrant un territoire plus important impliquerait l'utilisation de véhicules plus complexes, comme des voitures, qui rendraient l'opération dépendante de leur fonctionnement. L'utilisation d'outils conviviaux est à la base d'une société conviviale. Ainsi, l'utilisation d'outils low-tech et la mise en place de processus low-tech comme Cargonomia permet de tendre vers des outils et des processus plus conviviaux et d'ainsi de tendre dans l'ensemble vers une société plus conviviale. Ce type de société met l'humain en son centre. Elle favorise l'autonomie créative, la liberté, l'éthique et permet ainsi de favoriser le bonheur. L'utilisation généralisée de la low-tech implique donc un progrès d'ordre social par la favorisation de la convivialité.
Merci beaucoup Arnaud pour cette explication très claire de la convivialité et puis de ces exemples donc que tu nous apportes pour illustrer dans différents contextes ce que cela veut dire. Alors tu vois, il y a Arthur qui se pose la question du contexte de la convivialité dans le contexte UTC1. Par exemple, il se demande quelles peuvent être les applications de la low-tech au sein d'un établissement comme l'UTC. Alors c'est une question un petit peu vaste, mais ça pourrait être par exemple pour ce qui est de la formation des ingénieurs à l'UTC ou pour ce qui est la recherche à l'UTC, c'est des outils qu'on utilise, etc. Comment traduire, comment intégrer plus de convivialité ou de low-tech, hein, c'est moi qui me mets sur la convivialité, mais est-ce qu'on pourrait rendre low-techniciser un petit peu l'UTC, quelques parties au moins, puisque c'est un petit peu large déjà. Est-ce que tu aurais quelques
C'est idées compliqué, peut-être proposer des projets qui seraient plus, peut-être moins, qui seraient moins dépendants de technologies informatiques, moins dépendants de programmes, moins dépendants. On est beaucoup dépendants, même quand on travaille en mécanique, on est dépendant des logiciels de CAO, de beaucoup de logiciels différents. Peut-être créer des projets qui utilisent moins ces technologies, qui sont plus générales, qui permettent du coup aux gens de plus se retrouver et de ne pas travailler chacun derrière des écrans interposés et de mettre le projet en commun après. Même en informatique, par exemple, on pourrait peut-être faire ça. Après, pour des exemples concrets, ce serait compliqué. Ce serait compliqué à expliquer.
Mais c'est déjà, une bonne piste. Alors c'est vrai que des fois, on est dans des contextes où on a besoin d'outils numériques pour coopérer, pour organiser des projets, etc. Mais au moins, tu as dû mentionner ça dans la définition de la convivialité, mais il y a cette notion de choix, le fait de pouvoir choisir les outils qu'on utilise, à quelle mesure, à quel degré et pour quelle tâche exactement. Ça, effectivement, ce serait au moins une idée pour l'UTC. Oui, absolument. Ok, merci Arnaud. Merci pour cette partie-là. Alors, on va aborder donc la troisième partie de votre exposé. C'est Benoît qui va attaquer donc la partie sur l'impact environnemental du numérique et puis ce que peut faire les low-tech dans ce domaine-là. Si tu es prêt, Benoît, c'est à toi.
Donc, à présent, après avoir parlé d'accessibilité et de compréhension technologique, je vais parler un petit peu de l'aspect environnemental des low-tech, en commençant par les nouvelles technologies. Donc si on parle par exemple du numérique high-tech, en réalité il repose sur des milliers de serveurs, d'antennes pour la télécommunication et d'équipements terminaux tels que nos ordinateurs ou smartphones. Et il existe aussi des longs câbles sous les océans qui permettent les communications intercontinentales. Et donc la matérialité du numérique, elle est seulement cachée, il y a en réalité de très grandes quantités de ressources qui sont nécessaires. Et également soutenue par des réflexions telles que celle du rapport 2018 de The Shift Project, il y a Gauthier Roussil et d'ailleurs beaucoup d'autres, qui affirment que le développement du numérique ne s'accorde pas avec la sobriété énergétique et avec un usage responsable des ressources, dans le sens où toujours plus de croissance dans le numérique ne mène qu'à l'utilisation d'encore plus de ressources. Les nouvelles technologies demandent des métaux de plus en plus variés pour des usages de plus en plus précis et complexes. Censées résoudre les contradictions du monde industriel, les usines électroniques n'ont fait que les aggraver. Les processus chimiques de séparation des métaux ont des conséquences sur l'environnement et la santé. Toutes les initiatives numériques ne sont cependant pas mauvaises. L'infrastructure numérique peut permettre des modèles d'adaptation du climat et s'avérer être un outil nécessaire face à la complexité de la crise écologique. L'utilisation du numérique doit aujourd'hui être repensée avec moins d'émissions de carbone, moins de ressources et moins d'énergie. Évidemment, tous ces équipements doivent être alimentés. Les modèles de conception précédents basés sur l'illimité ne peuvent plus être utilisés et la low-tech répond justement à cette problématique en désirant des systèmes simples et moins coûteux. Ça va donc être une source de progrès vers une utilisation des ressources plus responsables et un meilleur respect de l'environnement en lien avec les défis actuels. La low-tech, c'est donc une réponse à l'appel de la sobriété et de la frugalité. Donc, ici, on a parlé un petit peu de numérique, mais c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres domaines. L'extrait audio qui va suivre provient d'une enquête réalisée par le Low-Tech Lab, tout comme les précédents, et concerne la réutilisation de matériaux dans le domaine de la construction.
À Bruxelles, on estime qu'annuellement, le secteur de la construction, enfin en l'occurrence plutôt même de la démolition, produit 650 000 tonnes de déchets. Enfin, c'est des chiffres qui datent de 2016, donc on est probablement plutôt autour de 1 million de tonnes. La partie de matériaux qui est réemployée là-dedans, on estime qu'elle est à peu près 1%.
La bruxellisation, c'est le concept urbanistique d'une ville lâchée aux promoteurs immobiliers.
Je pense qu'il y a pas mal d'ingrédients qui étaient préexistants. Le fait qu'on habite pour la plupart à Bruxelles, qui est une ville dans laquelle on voit beaucoup de démolitions. En fait, quand tu te balades en ville, tu vois sans cesse des chantiers. Ce que nous appelons du réemploi, c'est vraiment ce qui concerne des logiques de flux. Donc, c'est des matériaux qui sont mis en circulation. Soit c'est des flux qui sortent du chantier, des matériaux qui sont démontés, démolis pour être évacués. Soit c'est des matériaux qu'on importe pour être remis en œuvre.
Une phrase qu'on répète régulièrement dans des formes diverses, qu'il faudrait qu'il soit aussi facile d'utiliser des matériaux de réemploi que des matériaux neufs.
La low-tech n'est donc évidemment pas centrée uniquement sur le numérique. Ici, dans le contexte de la construction, il existe aussi des problématiques de réutilisation des ressources, de choix de matériaux qui pourraient être réutilisés dans le futur. 25% de l'aluminium mondial est aujourd'hui utilisé pour la construction et la croissance de l'extraction de minières est exponentielle. Entre 2002 et 2015, l'humain a extrait un tiers de tout ce qui avait été extrait depuis 1900. Aujourd'hui, selon The Shift Project, une réduction de moitié de l'extraction de métaux ne nous ramènerait seulement qu'au rythme des années 1990. Une valorisation des matières premières déjà extraites est donc recherchée et nécessaire. On comprend que des progrès sont encore à faire quand on entend que seulement 1% des matériaux de la construction sont aujourd'hui réutilisés. L'industrie et ses alliés dépensent beaucoup d'argent pour verdir l'image des mines, essentielle au capitalisme. L'innovation est utilisée comme raison pour développer de nouveaux besoins en métaux, et le secret industriel de certains alliages ou l'obsolescence programmée freine l'efficacité du recyclage. De nombreuses entreprises gagnent de l'argent pour ce qui contribuera plus tard à une production destructrice. C'est une philosophie complètement inverse de celle de la low-tech. Il est également important de porter une attention particulière sur l'effet rebond. Si la construction devient moins chère qu'une meilleure utilisation des ressources est possible, cela ne signifie pas qu'il faut construire davantage. Il faut penser à un meilleur usage des ressources pour le futur. C'est donc ce qui permet l'utilisation des matériaux ou procédés low-tech, qui est donc encore une fois une source de progrès vers une meilleure utilisation dans un monde où l'illimité n'existe pas. Pour conclure sur le lien entre low-tech et progrès, la low-tech est donc une démarche qui, de par sa définition, participe au progrès. Elle n'est composée que de systèmes simples et participe au partage et à la compréhension de la technologie. En souhaitant utiliser moins, elle permet de nous dépasser pour trouver des solutions simples et accessibles. Devoir penser et créer un système simple et moins coûteux nous apporte une réflexion différente de celle de la high-tech et un immense progrès par rapport à une solution plus complexe. Enfin, la volonté de durabilité des systèmes low-tech améliore la gestion de nos ressources. En utilisant plus de matériaux de récupération, on progresse dans la préservation de notre environnement et à développer de meilleures pratiques et usages pour nos ressources.
Merci beaucoup Benoît pour cette troisième et dernière partie de votre exposé, donc où tu nous as bien tracé un aperçu assez clair donc de l'impact environnemental du numérique, hein, très concret, et puis aussi donc de comment peuvent nous aider les low-tech, je ne parle plus français, c'est-à-dire que c'est la fin du semestre, hein, on le sent aussi, mais comment les low-tech peuvent nous aider dans ce domaine-là. Alors Benoît, comme tu as la chance donc de clôturer ce semestre de présentation avec ta partie, je m'efforce de te poser une question qui nous fait le lien avec le web, bien sûr, puisqu'on est dans une UV, un cours qui parle du web. Alors, je voudrais te poser la question, et tout le monde peut essayer d'y réfléchir ici, en quoi le web peut-il être un moteur pour le développement des low-tech ? Est-ce que, alors s'il en est un, c'est une question un peu vaste, mais est-ce que le web peut aider à développer, à diffuser plus largement les low-tech ? Est-ce que le web pourrait être lui-même davantage low-technicisé. Comment tu ferais le lien entre cet outil technologie-là et puis les low-tech ?
Alors oui, je pense que d'abord le web, il peut servir à diffuser davantage l'esprit low-tech et les procédés low-tech. Donc notamment, toutes nos ressources, ils viennent du Low-Tech Lab, qui est un organisme qui propose différents tutoriels sur les low-tech et comment vivre avec des procédés low-tech. Donc ça peut être une source de déploiement et pour propager l'esprit low-tech. Et en plus de ça, je pense aussi que le web peut être low-tech. Notamment, un site web, il peut être hébergé notamment sur des serveurs qui sont locaux, avec moins d'émissions de carbone, par exemple, par rapport à des sites qui sont hébergés dans d'autres pays. Et il y a aussi des procédés plus simples que d'autres qui peuvent être utilisés dans des sites web. Et donc, je pense que ça fait partie de l'esprit low-tech pour le web.
Ok, merci Benoît. Messieurs Arnaud, Paul, souhaitez-vous ajouter quelque chose à cette réponse déjà très complète Oui, vas-y Paul.
Je pense aussi qu'on peut essayer d'orienter, c'est pas le web directement, mais ce que consomme le web, c'est-à-dire la production d'énergie et les métaux qui sont utilisés pour les data centers ou les serveurs. Il faudrait qu'on puisse soit les réutiliser, soit d'avoir une production d'énergie plus verte, comme sur la partie de Benoît qui l'expliquait bien.
Yes. Eh bien, monsieur, oui, Benoît, tu souhaitais ajouter quelque chose. Mais non, c'était donc un petit hochement de tête enthousiaste parce que je crois qu'on a terminé. Monsieur, merci pour votre présentation. Très intéressante donc sur l'élotech et la notion de progrès. Écoutez, je vous invite à aller voir sur librecours.net les supports du cours WE1 et puis sur l'onum.fr davantage de ressources sur la low-technicisation dans le domaine du numérique. Alors, vous pourrez réécouter cette intervention et toutes les interventions des étudiants et des étudiants de WE1 en podcast sur graphite.net et puis ensuite un petit peu plus tard sur l'instance Peertube à peri.tube. Bravo à vous pour tout votre travail ce semestre, à tous les étudiants aussi qui nous écoutent en ce moment. Merci à Léo, Brian, Oran pour leur accueil toujours chaleureux au studio de graphite. Merci pour l'accueil de ce format d'émission. Merci Stéphane de nous avoir emmenés là avec les étudiants. Merci de nous avoir emmenés au studio. Et puis, écoutez, à vous, bonne fin d'après-midi à Compiègne ou ailleurs. Bonnes vacances et puis à la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.